Yo en San Jose escucho Radio Panic, Radio Pánico.
Вы слушаете Радио Паник в Сен-Жоз.
Салам алейкум, не кейжбни нсма Радио Паник.
Радио Паник галабе кейсойо.
Allemand, amhari, assyrien, syriaque, chinois, mandarin, créole, farsi, grec moderne, japonais, wallon, tamazir, flamand occidental, russe.
Radio Panic, la radio qui délie les langues, toutes les langues. Du 22 avril au 12 mai, le 105.4 FM ne gardera pas les langues dans ses poches. Traduction, diversité linguistique, quelle langue pour l'Europe? Bruxelles, polyglotte cité, intercomprensione. Ces thématiques seront déclinées à travers des magazines d'infos, des reportages, des émissions musicales et des créations sonores. Tout le programme est disponible sur radiopanique.org.
Vous savez que c'est Djibouti le mardi, et un Djibouti un peu particulier puisqu'on est dans la programmation transversale d'Élie les langues, et c'est notre ami Aymeric qui va gérer aujourd'hui plusieurs sujets à ce propos. Aymeric.
Salut Hubert, bonsoir à tous, bonsoir les auditeurs. Aujourd'hui, encore une programmation donc en lien avec délier les langues. On va délier les langues ici, on va délier les langues de chez nous aujourd'hui, puisque nous accueillons Nadine dans quelques instants, Nadine van Welkenhuizen, qui fait partie du service des langues régionales endogènes, la communauté française, Wallonie-Bruxelles.
Tu t'es trahi, hein, tu n'es pas natif de Bruxelles, toi.
Ah bon? T'es sûr? Ben voilà, donc après ce petit jingle, on accueillera Nadine. Et puis, je présente un peu le programme de l'émission d'aujourd'hui. Il y aura ensuite une interview par téléphone de Claude Sicre, donc le fondateur des Fabulous Troubadours à Toulouse, et qui a aussi beaucoup fait pour la diversité des langues, via notamment le Forum des langues du monde, qui a lieu depuis très longtemps à Toulouse. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a créé, mais en tout cas, il s'y est beaucoup impliqué. Donc, on l'écoutera tout à l'heure au téléphone. On finira avec un petit agenda, Hubert.
Avec un petit quart d'heure.
Un petit 10 minutes.
J'essaie de grappiller 10 minutes, là, mais je ne sais pas si j'y arriverai. Donc 10 minutes d'agenda, puisqu'on n'aura pas une émission entière d'agenda. On fera chaque semaine 10 minutes d'agenda pour la semaine qui vient, en fait.
Voilà. Ouais. Nathalie est à la technique. On te remercie, Nathalie. Et délions les langues. Voilà, donc on va délier les langues avec Nadine ce soir. Bonsoir Nadine.
Bonsoir Aymeric, bonsoir à tous.
Voilà, on est bien content de te recevoir, de t'accueillir ici dans nos studios. Hein. La communauté française, bon, c'est un très grand bâtiment ici, c'est un petit peu plus petit, mais pourquoi pas.
C'est chaleureux.
Hein. C'est chaleureux, merci.
J'ai l'impression que le service dont tu t'occupes, il n'y a pas beaucoup plus de monde qu'ici. Hein.
Non, c'est un petit service, c'est presque une cellule, mais c'est une cellule dont tous les membres sont motivés.
Ah voilà, excellent.
Et il y en a combien?
Donc nous sommes actuellement deux personnes, mais il y a une troisième personne qui est en train de nous rejoindre à part temps.
Et tu es la chef de ces deux personnes
et demie. Voilà, je dirige ce service.
Ouais. Donc ce service existe depuis 1980, c'est ça?
Non, le service est plus tardif. Hein. Donc il y a eu un décret, en fait, ça voilà. C'est le texte qui a permis de fonder le service. Donc il y a eu un décret, c'est vraiment le Noël des langues régionales. C'est un décret qui a été promulgué le 24 décembre 1990. C'est un décret relatif aux langues régionales endogènes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est suite à ce décret que le service que je dirige aujourd'hui a été créé.
Donc j'ai le décret sous les yeux ici. Il y a trois articles, hein. Je peux peut-être les lire rapidement.
Oui.
C'est bien résumé. Premier article, la communauté française de Belgique reconnaît en son sein la spécificité linguistique et culturelle de ceux qui usent à la fois d'une langue régionale endogène et du français, langue officielle de la communauté. Article 2, les langues régionales endogènes font partie du patrimoine culturel de la communauté. Cette dernière a donc le devoir de les préserver, d'en favoriser l'étude scientifique et l'usage, soit comme outil de communication, soit comme moyen d'expression. Article 3, l'exécutif de la communauté française confiera la tâche d'étudier et de proposer toutes les mesures aptes à préserver et à favoriser ces langues régionales endogènes aux organismes consultatifs dont il reconnaît la compétence. Voilà, alors première question peut-être, qu'est-ce que c'est que ces langues endogènes? Qu'est-ce que ça veut dire?
Donc ce sont des langues qui sont régionales, donc qui se distinguent de la langue standard, de la norme officielle, de la langue majoritaire. Ce sont des langues qu'on dit donc minoritaires. Et on les dit endogènes. Pourquoi ? Parce que ce sont des langues qui se sont développées sur le territoire de la communauté française, enfin de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à partir du latin, au même titre que le français pour les langues régionales romanes, ou à partir du germanique pour le bruxellois et le francique, puisqu'en fait, on couvre un domaine assez vaste géographiquement et assez hétérogène, je dirais, au plan linguistique, puisqu'on a à la fois des langues romanes, c'est tout à fait à l'ouest le Picard, donc qui est parlé dans les régions de Mons, Tournai, Hatte, une partie de l'arrondissement de Thouin. Puis vous avez le domaine wallon, qui est un domaine beaucoup plus vaste dans ses dimensions géographiques. Donc qui, pour le wallon de l'ouest, je dirais, c'est, le modèle c'est Charleroi. Puis vous avez le wallon du centre, ou wallon central. Plus exactement, le modèle c'est le Namurois. Et puis vous avez le wallon qui est tout à fait à l'est, c'est Liège. Puis vous avez encore une quatrième variété, c'est le wallon du sud, donc qui est parlé plutôt vers les Ardennes. Ça, c'est pour les parler wallons. Puis vous avez encore le Gaumais, ça c'est la région de Virton. Vous avez le Champenois, ça c'est quelques villages qui se situent entre la frontière des provinces de Luxembourg et de Namur, tout à fait dans le sud, du côté de Sunny. Donc ça, c'est pour les parler romans. Et puis vous avez aussi des parlers germaniques, ben, c'est le bruxellois, et puis c'est le francique. Donc, qui est parlé dans la région du Luxembourg en particulier et aussi dans la région de Virton. Voilà.
Il n'y a pas de mélange allemand-français du côté de l'Est.
Donc vous avez du côté de la province de Liège, hein, vous avez une variété de francique et puis vous avez plus au sud dans la province de Luxembourg une autre variété.
D'accord. Et le francique est influencé par l'allemand alors ?
Ah oui, absolument. C'est une langue germanique, c'est tout à fait différent du wallon. Il n'y a pas d'intercompréhension entre des gens qui parlent le wallon de Liège et les gens qui parlent le francique qui est situé là au nord de Verviers.
Ils ne
se comprennent pas entre eux, c'est vraiment des parlers différents. Mais en revanche, le wallon de Liège, il est beaucoup plus teinté du point de vue du lexique, d'éléments d'origine germanique que le Picard par exemple.
Mmh. D'accord.
Okay. On nous enferme au secours.
On joue avec les portes et les fenêtres. Ici, il y a un courant d'air qui balaye les studios. Et on espère que les langues resteront quand même dans le studio. Elles ne vont pas s'envoler. Ce sera une question, j'imagine, qu'on posera parce que les langues, effectivement, sont
les langues s'envolent.
Assez volatiles quelque part. Hein.
Ah, elles sont dans un état précaire.
Voilà.
Ça, c'est vrai. Donc,
mais on n'a pas encore vraiment répondu à la question de base. Enfin, moi, c'était plus pour développer encore là-dessus, sur le concept d'endogène. Donc, on a parlé de ces langues. Alors, on a dit endogène. Enfin, tu ne l'as pas dit, Nadine, mais tu nous l'as dit hors antenne avant. Donc, ce sont des langues qui viennent du territoire.
C'est ça, qui se sont développées sur le territoire.
Contrairement à d'autres langues qui sont celles de l'immigration.
Voilà.
Comme par exemple les Italiens qui sont arrivés au XXe siècle. Hein.
Mais donc les Italiens qui sont venus chez nous, ils avaient une langue régionale. Hein. C'était des Siciliens.
Oui, mais il y a toujours eu des migrations. Donc, ça veut dire quoi en même temps, endogène ? Depuis combien de temps ils sont là, le wallon, c'est depuis combien de siècles, par exemple ?
Ah, c'est aussi ancien que le français. Hein.
C'est aussi ancien que le français.
C'est aussi ancien que le français. La seule différence, c'est qu'effectivement...
Combien de siècles, alors ?
Au moment où ils se sont individualisés. Mais ça remonte au Moyen-Âge. Hein.
D'accord.
Mais le moment où vraiment les parlers wallons se sont distingués des autres parlers nés du latin, bon, ça, il faut attendre un peu plus longtemps. Donc, on a des textes qui... Il y a des traces, je veux dire, d'éléments wallons dans des textes du Xe siècle, IXe, Xe siècle. Donc, vous voyez que c'est très, très ancien.
D'accord.
Mais le moment où vraiment on parle d'une littérature wallonne, ça, il faut attendre 1600. Mais donc ça, c'est un moment où la littérature wallonne existe en tant que telle. Mais bon, le passage à l'écrit, il y avait antérieurement, bien évidemment, déjà des éléments très très importants de coloration de wallon ou de picard dans des textes plus anciens.
Mais pour parler justement de ces périodes, de ces langues endogènes, les nouvelles langues qui naissent dans les villes, les langues urbaines, elles sont considérées comme des langues endogènes ou...
Ben non.
Non.
D'accord.
Elles ne sont pas considérées comme des langues endogènes. En fait, les langues qui sont visées par ce décret, c'est vraiment les langues que je vous ai citées, c'est-à-dire des langues qui sont installées sur le territoire depuis déjà très très longtemps.
D'accord, ok.
Okay. Voilà. Et donc, alors, suite à la promulgation de ce décret, donc, peut-être pour résumer un petit peu, parce que bon, c'est quand même une spécificité belge, et plus particulièrement même donc, de Wallonie, puisque donc, on est ce décret des langues régionales endogènes, puisque en Flandre, ça a été un petit peu différent, vu qu'en Flandre, ils ont plus milité pour l'unification du flamand et les différences régionales existent toujours et sont bien vivantes. En Wallonie, le français s'est imposé et voilà, on est dans la période plus récente, évidemment, suite à l'indépendance et tout ça. Et donc, à partir de 80, on a décidé d'essayer de préserver ces langues qui commençaient à laisser la place au français sérieusement et de plus en plus.
C'est ça. Donc il y a eu plusieurs vagues. Donc si vous voulez, il y a eu d'abord la Première Guerre mondiale. Ça a été un moment après la Première Guerre mondiale, il y a eu l'instruction obligatoire. Et donc c'est le moment où nos parlers régionaux ont commencé à perdre du terrain. Et puis vous avez eu la Deuxième Guerre mondiale et toutes ses conséquences avec le développement des médias, le développement des gens qui allaient travailler dans différents endroits, le fait que des zones qui étaient rurales et donc où le wallon ou le picard étaient mieux préservés se sont industrialisées, etc. On fait que finalement par le brassage des populations, la diffusion du français par les médias, la télévision, etc. a fait que les langues régionales se sont peu à peu perdu. Et donc très vite, finalement, on s'est soucié d'avoir un certain nombre d'actions et de soutien à des actions en langue régionale. Mais la législation en tant que telle, le premier acte le plus important, c'est en 83, le décret du ministre Urbain en faveur du recours aux langues régionales dans l'enseignement primaire et secondaire. Et puis l'acte suivant, c'est la réflexion autour de la charte européenne. Et puis l'acte suivant, c'est le décret sur les langues régionales de 1990.
C'est ça, 1990. Décret sur les langues régionales endogènes.
C'est ça, exactement.
D'accord, donc différentes étapes. Alors, on va écouter des productions artistiques, musicales, que vous avez soutenues, puisque ça fait, on est en train de dire comment soutenir ces langues-là. Ben, c'est notamment via la littérature, le spectacle aussi. Donc,
c'est ça, c'est tous les domaines artistiques finalement où la langue sert de vecteur à la création. Donc que ce soit le théâtre, que ce soit la chanson, que ce soit la littérature, et c'est essentiellement la littérature. Eh bien, nous essayons de soutenir les projets qui sont déposés et qui vont dans ce sens. Donc, toute personne en fait qui écrit un texte, que ce soit du théâtre, que ce soit de la poésie, que ce soit de la chanson, en langue régionale, peut solliciter auprès du service que je dirige un soutien.
Ok, on va écouter donc un premier extrait musical. On en écoutera trois. Le premier, il s'agit d'un groupe de Namur. Donc peut-être tu pourrais nous rappeler en introduction comment ce projet-là de DVD, de production d'un DVD avec des chanteurs qui chantent dans les langues régionales, c'est fait, c'est monté. Est-ce que c'est le seul? Est-ce qu'il y en aura d'autres?
Alors à ma connaissance, c'est un projet qui n'a pas d'équivalent actuellement. Donc l'idée c'était, voilà, la chanson en langue régionale, c'est un bon vecteur finalement de promotion de ces langues, plus peut-être que la littérature, parce que parfois c'est difficile de lire des textes en langue régionale parce qu'ils sont écrits dans une orthographe particulière qui n'est pas nécessairement toujours accessible. Tandis que, bon, écouter une chanson, c'est très différent. Et on n'est pas nécessairement obligé de tout de suite comprendre tout le texte, puisqu'on écoute aujourd'hui des tas de chansons en anglais et je ne suis pas sûre que tous les auditeurs comprennent chaque parole de la chanson. Mais ça leur donne le goût de l'anglais. Et donc l'idée, c'était de faire un peu la même chose avec les langues régionales de chez nous. Et donc on a sélectionné, en collaboration avec une ASBL qui est très active, qui s'appelle La Roulotte Théâtrale, qui est une association des parts picardes, mais qui s'intéresse vraiment à la pluralité ou à la diversité linguistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a travaillé avec nous. Et c'est un des membres de cette ASBL, La Roulotte Théâtrale, Stéphane André Thibault, qui était aux commandes, je dirais, du point de vue caméra. Et donc c'est lui qui a vraiment monté, réalisé le film. Et l'idée, c'était voilà, de proposer vraiment ce qui, à nos yeux, semblait être ce qu'on faisait actuellement de mieux en matière de chansons en langue régionale et qui pouvait donner justement une image de ces langues et cultures qui ont parfois une apparence un peu ringarde, d'essayer de leur donner, je dirais, une image qui soit plus d'aujourd'hui.
Mais donc c'est des groupes qui font pas que de la composition en langue régionale ou bien si
Pour l'essentiel, ce sont des groupes qui se produisent uniquement en langue régionale. Donc à quelques exceptions près, donc Michel Azaïs y fait aussi pour partie, je crois, des textes en langue française et peut-être en anglais. El Mordi aussi, donc ça c'est du blues en wallon, liégeois, lui chante en anglais et en langue régionale. Mais les artistes que nous allons écouter aujourd'hui, je crois, en particulier Compost Band, qui est namurois, à ma connaissance, il ne se produit qu'en langue régionale. Son répertoire, c'est uniquement du répertoire wallon.
Ce sont des artistes assez jeunes, en général ou...
Ça dépend. Donc, c'est très variable d'un groupe à l'autre. Il y a des mélanges aussi. Au sein d'un même groupe, vous pouvez vous retrouver des gens qui ont une bonne vingtaine d'années et puis jusqu'à 60 ans. D'accord. Alors vous avez tout à la fin un tout jeune artiste liégeois qui s'appelle William Warnier et donc qui a gagné le dernier festival de la chanson wallonne. C'est lui qui a remporté le premier prix.
Ah, il y a un festival de la chanson wallonne.
Il y a un festival de la chanson wallonne. D'accord. Qui est organisé deux fois tous les deux ans.
D'accord.
Bisannuel.
On va écouter alors un de ces musiciens. Bah, c'est vrai, voilà, c'est assez original hein, quand même. La chanson des Noceurs, où on les a choisis en concertation. Celle-là, bon, vous l'aurez en langue régionale, puisque c'est là-dedans qu'elle a été écrite. On pourra peut-être faire une petite, un petit résumé, une petite traduction.
Oui, d'accord. Quand on l'aura entendu. Mais donc, je précise quand même peut-être que ce DVD, il est accompagné d'un livret. Dans le livret, on a les textes en langue régionale. Mais on a aussi leur traduction française. Donc si quelqu'un veut vraiment tout comprendre, il a la possibilité tout simplement de consulter le livret.
Toi, tu peux parler pas mal de ces langues régionales ?
Je les comprends toutes.
D'accord. Ouais.
Mais je ne les parle pas parce que je n'ai jamais l'occasion de les parler.
D'accord. Ok.
Donc on écoute Compost Bind avec donc, une chanson en wallon namurois.
Exactement.
Les droits Sabam et Simim ne pouvant être honorés, vous n'écouterez pas le contenu proposé lors de l'émission. Vous pouvez toujours l'imaginer, sans le copier dans votre esprit.
Voilà, dans Djiboutique avec Compost Band.
On pense un peu à Shane McGowan, hein, vous savez, le chanteur irlandais.
Ouais,
il y a un petit
vrai,
côté comme
vrai.
Ça.
Et puis au niveau du rythme aussi, enfin moi ça me refaisait penser un peu aussi au corridos mexicain, tout
un
truc
peu
basique.
Country,
un peu country basique. Ouais, cowboy aussi. Hein.
Ouais, cowboy, c'est ça, voilà, country. Hein.
Ben, c'est très cowboy, alors.
Et les paroles apparemment sont assez cowboy
oui,
aussi.
Oui, c'est une chanson un peu paillarde, quoi. C'est pas vraiment le modèle de la chanson féministe, on va dire, mais bon, c'est une chanson très dynamique où en fait c'est quelqu'un qui dit attention, les filles sont lâchées, les poules sont sorties, je fais pouvoir, voilà, faire
je vais
mon
pouvoir
affaire,
en attraper
une, voilà.
Bon, je lis un petit passage parce que c'est quand même drôle, quoi. Tsoin, voilà le soleil, ça fera du bien à mes orteils. On libère les poules et je me réjouis de les voir courvées. Tu peut-être même à moitié nu. Tsoin, le soleil est de retour et fier comme un coq, je pars chasser les filles pour passer mon hiver, réchauffer mon logis et le pantalon aussi. Tsoin, les beaux jours reviennent, Maximilienne, Joséphine ou Julia, peu me chaud leur prénom, je suis un homme et quelqu'un m'est nécessaire pour mes besoins physiologiques. Hubert,
quoi ?
Tu as rarement été aussi cru.
Ouais, non, ça m'étonne pas trop d'effectivement de voir des paroles comme ça. Quand tu écoutes vraiment les vieilles chansons latino-américaines, c'est tout à fait ça aussi, hein.
Ouais.
Ah ben oui.
Bon, tu nous en amèneras.
Si tu veux.
Ces jours.
Ils sont tous chauds.
Alors, bien nous en chaud, comme il disait dans la chanson. On va parler plus précisément maintenant alors des patois, puisque bon, on était en train de dire voilà, on essaye de présenter ces musiques qui sont assez locales. Là, c'est vrai que la manière de parler, quand même, il y a quelque chose de très typique. C'est ça que j'avais envie de dire aussi, qu'on n'entend pas plus très souvent.
C'est une musique particulière. Chaque langue, c'est une musique particulière. Hein. Mm-hmm. Et donc, c'est vrai que bon. Il y a une forme d'intercompréhension, je dirais, entre tous les wallons, mais si vous êtes picard de tournée et que vous entendez parler un wallon liégeois, il n'est pas sûr qu'ils se comprennent parfaitement.
Ok.
Donc c'est particulier à chaque langue. C'est vrai.
Et alors le terme patois, dire que ce sont des patois, c'est
parfois un petit peu... Ah oui, ça je vous ai dit dans un mail, halte là, employez.
Attention.
Ne pas employer
pourtant,
le mot patois.
Pourtant on le trouve dans certains articles de journaux régionaux.
Ouais, c'est vrai, c'est difficile à faire passer cette idée. En fait, bon, nous, au service et aussi au conseil, donc il y a une instance qui travaille en collaboration avec le service et qui remet des avis sur les demandes d'aide qui sont déposées, on veut absolument promouvoir l'expression langue régionale endogène. Pour quelles raisons ? D'une part parce que le mot patois, dans son histoire, il est entaché de connotations péjoratives. Et donc pour toute une série de personnes, pas pour tout le monde, il y a des gens qui utilisent le terme patois avec des connotations tout à fait affectives, je dirais c'est vraiment leur parler, mais pour toute une série d'autres locuteurs, et en particulier pour les unilingues francophones, le patois c'est vraiment la langue inférieure. Quoi. Il y a une connotation un peu méprisante.
Bouseux.
Voilà, c'est ça, exactement.
Ouais. Mmh.
Et donc l'idée... du décret de 1990 et aussi de la charte européenne des langues régionales, c'est de dire, mais pas du tout, c'est parler, ils ont leur vocabulaire, ils ont leur syntaxe, ils ont leur grammaire, ils ont leur orthographe, ils ont leur phonème, ce sont des langues à part entière, ils ont une littérature qui est très ancienne, et par conséquent, il n'y a aucune raison de les considérer différemment des autres langues du monde. Et donc, on essaye vraiment de convaincre les autres d'utiliser l'expression « langue » parce que ce sont des langues à part entière et que si on veut les promouvoir et les défendre, il faut rendre le public sensible vraiment à cet aspect.
Bon, moi, je vous conseille juste de commencer par langue régionale. Peut-être le mot endogène, ce sera pour une étape suivante. Hein.
D'accord. D'accord. Mais en tout cas, pas toi, je trouve qu'il faut essayer d'éviter ce mot.
D'accord. Et dialecte, c'est...
Alors, dialecte, c'est vrai que c'est un mot qui a aussi une très longue histoire, qui n'a pas du tout les mêmes connotations, je dirais. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a une discipline scientifique qui lui est associée, qui est enseignée à l'université, la dialectologie. Et donc, c'est différent.
D'accord.
C'est, je dirais, beaucoup moins négatif, mais encore une fois, je trouve que le terme langue a l'avantage de situer ses parlers au même niveau que l'anglais, que le français,
d'accord,
que l'espagnol.
Tout à fait.
Voilà.
Alors, il y en a un qui a un statut un peu particulier, puisque là, on a parlé beaucoup de ceux de Wallonie,
oui,
et dans ce qu'on trouve ici dans le CD, DVD que vous avez produit, je ne sais pas s'il y en a, mais il y a aussi le bruxellois, donc le bruxellaire.
Le bruxellaire, tout à fait. Et c'est très important de rappeler qu'on s'occupe aussi des activités en bruxellois. On travaille en collaboration avec une association qui est très très active sur le terrain, qui est l'Académie de défense et illustration du parler bruxellois, au sein de laquelle œuvre notamment en tant que président José Géal, donc, que tout le monde connaît, je pense, puisque c'est le père de Thau, donc c'est le théâtre de marionnettes, qui est cette institution bruxelloise, je pense, que beaucoup de vos éditeurs doivent connaître. Et donc, c'est très important de souligner que le bruxellois fait partie aussi des langues régionales dont nous nous occupons, exactement au même titre que le wallon ou le picard, parce que c'est bien le symbole, justement, de ce qui fait l'unité, je dirais, de notre fédération Wallonie-Bruxelles. Et c'est un signe aussi de la solidarité nécessaire, je crois, que doivent entretenir les Wallons et les Bruxellois.
Et donc, il y a longtemps, alors, puisqu'on parle toujours de ces langues régionales endogènes, n'est-ce pas, Hubert ?
Ouais.
Donc, le bruxellois est très vieux. En fait, avant, à Bruxelles, on parlait que ça
Mais c'est la même chose que pour le wallon. Donc, au départ, effectivement, donc, les langues qui étaient parlées Bruxelles ne s'est francisées que plus tard. Donc, Bruxelles est originellement, historiquement, une ville flamande. Et le bruxellois...
Ne dites pas ça, c'est pas le moment.
est-ce que l'histoire donne des droits ? Moi, je ne crois pas.
D'accord. Okay.
Le fait d'avoir existé n'est pas la légitimité pour le futur, sinon on ne change jamais
ça
rien.
Ça change.
C'est
voilà,
une vision ultra conservatrice des choses, moi je ne crois pas, mais il faut, je pense, quand même être sincère ou honnête au plan historique. C'est comme ça, le dialecte bruxellois, et à Bruxelles pendant tout un temps, mais c'était quelque chose de très proche du flamand.
D'accord. Voilà. Et c'est une langue qui a une grammaire, qui est enseignée, qui le bruxellois ou qui...
Alors, il y a des cours de bruxellois qui sont dispensés par l'Académie de défense et illustration du parler bruxellois. Donc,
d'accord,
effectivement, si vous avez des dictionnaires, une grammaire, des recueils d'expressions idiomatiques, hein, où vous pouvez trouver des tas de proverbes en bruxellois, etc. Donc,
parce
oui, c'est une langue qui s'enseigne encore aujourd'hui.
J'imagine ce genre de langue qui est entre la vie un peu assistée et la mort quelque part, parce qu'ils vont, voilà, il n'y a plus vraiment de locuteurs, enfin, je sais pas. Mais ça doit quand même bouger pas mal. C'est quand même des langues qui doivent évoluer, bouger pas mal. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une grammaire établie qui maintient une structure stricte et...
Oui, un des problèmes
stable
de ces langues, vous savez, c'est qu'en réalité, elles évoluent moins que le français.
D'accord.
Pourquoi ? Parce que les réalités qu'elles désignent sont souvent des réalités assez anciennes, en tout cas pour le wallon. Donc il y a toute une série de réalités qui appartiennent au monde rural, des variétés de fruits, d'arbres, des outils aussi qu'on utilisait et qu'on utilise beaucoup moins aujourd'hui. Où il y a toute une série de termes qui se rattachent au vocabulaire de la mine. Bon, je ne vais pas vous rappeler où en est... Où en sont nos charbonnages.
Ça,
c'est un des problèmes, justement, de nos langues, c'est que il faut, justement, pour ça, encourager la création contemporaine pour faire en sorte que ces langues continuent d'évoluer. Mais du point de vue de la grammaire, je dirais que ça, c'est la même chose que pour le français. Vous avez des grammaires pour le français aujourd'hui, ben vous en avez pour le wallon aujourd'hui aussi. Ça, c'est tout à fait comparable. La seule différence, c'est effectivement la lexique, où la question se pose, est-ce qu'on met dedans uniquement les mots qu'on utilise encore aujourd'hui ? Est-ce qu'on met les mots nouveaux qu'on a créés, qui sont calqués sur le français avec des terminaisons wallonnes, pour désigner des réalités nouvelles ? Par exemple, comment est-ce qu'on dit un email en wallon ?
Un email, ah oui.
Un Émile. On a trouvé ce terme et c'est assez joli.
Un Émile.
Oui, un Émile. Alors, vous pouvez demander comment est-ce qu'on dit un ordinateur. Alors, ça dépend des cas. Il y en a qui disent Jinjol. Enfin, il y a toute une série comme ça d'auteurs contemporains qui s'interrogent justement sur les noms à donner aux réalités modernes. Et ça, pour les dictionnaires, d'accord, ça se pose.
Mais est-ce que c'est pas un problème justement que ce sont des mots créés un peu artificiellement quelque part? Ce sont des gens qui décident, tiens, on va créer ces mots. C'est pas des mots qui viennent naturellement dans la langue. C'est un peu comme comment s'appelait la langue qu'on essayait de créer, la langue européenne, voilà, l'espéranto qui a été un grand espoir et puis qui a été un grand échec quand même pour finir, parce que c'était une langue un peu artificielle créée de toutes pièces.
C'est vrai, à la différence que le wallon, il existe, c'est pas une langue artificielle, c'est d'accord, les mots nouveaux qu'on introduit, donc c'est quand même assez différent de l'espéranto.
Parce qu'on a aussi essayé de franciser plein de mots de l'informatique et ça non plus ça rentre pas vraiment, ça marche pas vraiment ça.
C'est vrai, mais il n'y a pas tellement d'alternatives, je dirais. Ou bien vous considérez qu'effectivement ces langues, elles sont figées une fois pour toutes, et alors elles vont arriver au stade du latin et du grec, ou vous considérez que ben non, il faut s'appuyer sur les racines de la langue, ça on les connaît, pour créer des mots nouveaux.
D'accord.
Et il n'y a en réalité pas de raison que ce mécanisme s'arrête. C'est comme ça qu'une langue notamment se renouvelle, c'est à partir d'un certain nombre de racines de base qu'on développe, avec toute une série de suffixes, de préfixes, etc., des mots nouveaux pour désigner des réalités nouvelles.
Et puis, peut-être que justement, Hubert, la place qu'on donne aux artistes, en disant bon, il faut essayer de soutenir la création, c'est une manière de recycler un petit peu la langue, donc des artistes qui maîtrisent cette langue, et les artistes sont aussi créateurs,
tout à fait,
comme le poète, donc voilà, remplacer des anciennes, des mots qui ne collent plus à une réalité ancienne, mais créer une nouvelle réalité, enfin...
Moi je crois que c'est important qu'il y ait des néologismes dans une langue pour qu'elle vive, tout simplement, de la même manière qu'il doit en avoir en français, mais il faut qu'il y en ait aussi en wallon et en picard, et une langue, pour être une langue, elle doit pouvoir tout dire.
D'accord.
Ok. Ouais. Tu voulais...
J'avais une question, mais je ne sais pas au niveau du temps, s'il nous reste deux morceaux à passer. J'ai une petite question alors.
Vas-y.
Très rapidement, est-ce que vous sentez... Est-ce que tu sens, parce qu'on passe du vouvoiement tutoiement aujourd'hui, est-ce que tu sens, avec la mondialisation, il y a une espèce de retour aux sources dans les régions, on essaie de se raccrocher un petit peu plus à ses racines. Est-ce que tu sens dans les langues que voilà, il y a un plus grand intérêt qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années pour les langues régionales?
Il y a en tout cas un grand sentiment de sympathie. Je dirais que à la fois il y a moins de locuteurs qu'autrefois, ça c'est certain. On estime qu'en fait on n'a pas d'enquête récente, mais grosso modo on peut se dire qu'on est en dessous de 10% de la population qui est en mesure aujourd'hui de parler encore wallon. Donc c'est quand même un nombre extrêmement faible, et si on va dans les tout jeunes locuteurs, on est encore en deçà.
D'accord.
Donc c'est très peu. Mais à la fois, le sentiment de mépris qu'on éprouvait autrefois à l'égard du wallon est en train quand même progressivement de s'inverser. Parce que, en effet, les gens se sentent menacés dans leur identité par la globalisation. Et un des modes, je dirais, de réaction à cette menace, c'est effectivement de bien se retourner vers ses racines et de voir d'où l'on vient.
Ouais, voilà. Ouais. Parce qu'on voit que les fêtes traditionnelles sont de plus en plus fêtées.
Le folklore est très important. Donc il y a eu récemment la reconnaissance, par exemple, des marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse par la commission UNESCO. Donc ça veut dire qu'il y a toute une série d'éléments qui font partie du patrimoine, les langues régionales, le folklore traditionnel, qui revêtent aujourd'hui davantage d'intérêt aux yeux du public. Je pense.
D'accord.
Alors, on va encore écouter un extrait musical. On espère peut-être avoir tout à l'heure Claude Sicre au téléphone. Il s'agit cette fois-ci d'un groupe qui s'appelle Dietrich et qui chante en picard.
Exactement, oui, ce sont des picards.
Les droits Sabam et Simim ne pouvant être honorés, vous n'écouterez pas le contenu proposé lors de l'émission. Vous pouvez toujours l'imaginer, sans le copier dans votre esprit.
Vous êtes toujours sur Djiboutique, sur le 105.4 Radio Panique. Vous pouvez les écouter en streaming sur le site radiopanique.org et écouter les podcasts de toutes ces émissions depuis 4 ou 5 ans sur notre site www.djiboutique.be. Vous retrouvez les podcasts et ce podcast, enfin l'émission, le podcast de cette émission, J'y arriverai, ben il sera disponible d'ici 3 ou 4 jours sur le site. Voilà.
Alors, on est avec Nadine van Welkenhuizen de la communauté française du service des langues régionales endogènes. Est-ce qu'il y a une adresse internet facile à donner pour nos auditeurs?
C'est www.langueregionale sans accent et au pluriel et d'un seul tenant.cfwb.be.
Ok. On a déjà parlé de quelques activités de ce service. On écoute les musiques qui ont été compilées et filmées par un de vos collaborateurs. Et on va parler maintenant assez brièvement d'une de vos missions, c'est de faire avancer les réflexions en vue d'une adoption de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Alors, en résumé, en quoi est-ce que ça consiste ?
Donc voilà, c'est un texte très important qui a été ouvert à la signature et ratification des États membres de l'Europe par le Conseil de l'Europe en 1992. Donc, à l'heure actuelle, il y a 33 pays qui ont signé la Charte et 25, si je ne m'abuse, qui l'ont ratifié. Et donc, parmi ces pays, vous retrouvez l'Allemagne, vous retrouvez le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Espagne, dont toute une série, je dirais, de pays voisins extrêmement proches, des pays de dimension plus réduite aussi, comme le Liechtenstein, et la Belgique, malheureusement, qui a pourtant été à la pointe, je dirais, du combat en faveur de la sauvegarde et promotion des langues régionales. Eh bien, elle n'a ni signé, ni ratifié ce texte. Et donc, une des activités du service consiste à organiser des réunions, des colloques, à produire des textes, à faire une sorte de lobbying, voilà, si vous voulez, en direction des différents niveaux de pouvoir.
Et donc, pourquoi ça n'a pas été signé ? C'est un problème de langue ?
C'est un problème belgo-belge. Hein. C'est-à-dire que c'est lié à la complexité de la structure fédérale belge. Parce que vous voyez,
d'avoir une moitié de la signature en flamand et l'autre moitié en français.
En partie, oui. Voilà. C'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que la communauté française, elle reconnaît des langues régionales sur son territoire. La communauté flamande ne le fait pas. Le texte, il est ouvert à la signature des États membres. Donc, il faut finalement que la communauté flamande et la communauté française s'accordent pour déléguer ce pouvoir à l'État belge. Et donc, c'est assez compliqué, je dirais, de faire aboutir ce dossier parce qu'il faut que les différentes entités fédérées se mettent d'accord. Et comme vous savez, en Belgique, ça n'est jamais facile.
Ça prend du temps.
Voilà.
Voilà, alors on va essayer d'avoir Claude Sicre, donc ex-chanteur des Fabulous Troubadours et militant actif à Toulouse, notamment pour l'organisation du Forum des langues du monde qui aura lieu cette année en juin. Alors on va un petit peu voir si on arrive à l'avoir au téléphone, c'est pas toujours facile. Mais
le dieu de la technique est avec nous aujourd'hui.
En tout cas,
on va voir.
On peut rappeler peut-être que il y a eu beaucoup de mouvements pour la défense de l'Occitan dans la région de Toulouse, et c'est à partir de le soutien à cette langue que le Forum des langues du monde s'est organisé. Bonsoir Claude.
Bonsoir.
Voilà, donc on rappelait l'un des intérêts, je pense, que tu avais de défendre l'Occitan et via le Forum des langues du monde, qui voilà, ça fait déjà quelques années, c'est toujours en cours, c'est un combat qui continue.
Alors d'abord, ça fait 21 ans que le Forum des langues du monde existe à Toulouse, et en fait, c'est pas tellement pour défendre l'Occitan, c'est dans un esprit occitaniste de dire qu'on promeut les langues, et pour nous la philosophie occitaniste c'est de promouvoir toutes les langues, pas de promouvoir la sienne propre, c'est en promouvant et en montrant l'intelligence de toutes les langues du monde qu'on peut promouvoir la sienne.
C'est ça. Bon, alors justement, on parlait ici un peu de nos langues régionales, et c'est pas toujours la même philosophie, j'ai l'impression. Je lisais des articles sur des faits qui défendent les langues régionales en tant que telles, donc vous avez déjà un peu une autre approche, on va dire, que ce qui peut se faire ici. Ici, on est en Belgique, on est avec un Nadine qui est dans le service des langues régionales endogènes, donc on a des institutions d'une partie de l'État qui soutiennent ces langues. Vous avez fait, je pense, le but du forum n'est pas que de promouvoir la rencontre des différentes langues, c'est aussi qu'il y ait une forme de reconnaissance au niveau de l'État, de l'intérêt de ces échanges, de ces rencontres entre les langues, non ?
Oui, mais nous ne sommes pas dans une posture de revendication. Ce que nous montrons, en ayant créé le Forum de Toulouse, et puis maintenant, ce forum a été suivi de très nombreux forums en France et puis à l'étranger aussi. Le dernier à l'étranger à Copenhague, enfin à Madagascar plutôt l'année dernière, et à Copenhague avant, à Leeuwarden en Frise, pas loin de chez vous justement. Tous ces forums qui se montrent crée un mouvement d'intelligence, si vous voulez. Nous sommes des militants de l'intelligence. Nous pensons que comprendre ces langues, connaître ces langues, connaître l'histoire des langues du pays, mais aussi de comprendre la pluralité linguistique qui existe dans le monde, c'est un acte d'intelligence pionnier, et c'est une grande aventure culturelle. Et donc nous sommes tout à fait en positif, et en fait nous essayons de rendre service aux différents gouvernements français en leur proposant non pas de reconnaître, mais en leur proposant de
s'intéresser,
de comprendre mieux ce qui se passe, et qu'on est plus, beaucoup plus intelligent et beaucoup plus cultivé, beaucoup plus ouvert au monde quand on fait attention à la pluralité linguistique du monde. Donc nous ne sommes pas dans une posture de revendication ou de ce genre. Nous sommes dans une aventure pionnière de meilleure compréhension du monde et de meilleure compréhension des autres peuples.
D'accord. Alors justement, ici avec Nadine, on était en train de parler de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Je n'ai pas trouvé trace de ça dans les débats que vous organisez au sein du Forum des langues du monde. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez intéressant ou pas ?
Oui, mais nous sommes dans une situation... Nous pensons que la situation française est différente. Ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont, comment dirais-je, des apôtres de la différence, mais qui voudraient que sur certaines questions, tout le monde soit pareil. Je pense que la France est dans une situation extrêmement particulière par rapport à la Belgique, ou à l'Italie, ou à l'Espagne, et qu'il faut qu'elle comprenne sa spécificité. D'ailleurs, je pense qu'on ne comprend les choses que dans leur spécificité. Donc, si par exemple je viens en Belgique, je veux comprendre la spécificité du problème belge, et non pas venir, comment dirais-je, avec des théories toutes faites. Donc la France est dans une position extrêmement particulière, elle a une histoire extrêmement particulière par rapport à ça, et donc il faut la comprendre et trouver les arguments et trouver les choses qui sont... Il faut convaincre nos concitoyens de l'intérêt de ça. Et moi je pense, personnellement, je défends depuis 1997, je défends l'idée d'une proposition d'éducation, initiation, à toutes les langues indigènes de France, c'est-à-dire quelque chose qui, à l'école, mais aussi dans les médias, mais surtout à l'école et au lycée, tout ça, expliquerait la pluralité linguistique du monde, et puis expliquerait la pluralité linguistique de la France, en nommant les langues, en montrant qu'elles ont une littérature, des arts, des cultures, et montrer leur intérêt. Et voilà. Et nous essayons maintenant de convaincre le gouvernement de ça, et il semble que les choses avancent très récemment, puisque j'ai participé la semaine dernière j'ai été auditionné par le comité qui a été nommé par la ministre de la Culture sur ce sujet. Il semble que les choses avancent. Et donc je pense qu'il faut convaincre tous nos concitoyens de l'intérêt de la chose, et ne pas les brusquer avec des revendications, la loi, une loi européenne, où les problèmes ne sont pas tout à fait les mêmes. Je pense que chacun a son temps, chacun a son histoire, et qu'il faut faire les choses. Alors, bien sûr, je trouve intéressante la charte et les conversations qu'il y a sur la charte. Mais bon, le président Hollande avait fait, enfin, le candidat Hollande avait fait la promesse qu'il ratifierait la charte. Je savais très bien, je lui ai annoncé dès le début que ça ne serait pas possible et qu'il ne le ferait pas. Je savais très bien que c'était une promesse qu'il ne ferait pas, donc. Et les gouvernements suivants ne le feront pas non plus. Donc je pense qu'il faut d'abord convaincre nos concitoyens. Voilà, c'est important, c'est un souci démocratique de conviction de nos concitoyens qu'il faut faire en France, et avec des arguments français, pas en cherchant des arguments en Catalogne ou en Belgique ou ailleurs, même si c'est intéressant de connaître les situations ailleurs. Mais il est intéressant de connaître les situations ailleurs pour voir que l'histoire... de la France est différente et que notre stratégie doit être différente et spécifique.
Est-ce que vous n'avez pas peur de ramener dans vos débats des gens très conservateurs qui sont très proches du patrimoine et qui veulent retrouver des fondamentaux du patrimoine ? Moi, je parle de l'extrême droite, bien sûr.
Non, nous n'avons jamais eu peur de l'extrême droite.
D'accord.
D'ailleurs, nous avons fait la fête que que j'ai lancé à Toulouse, le Forum des langues, c'était pour mettre tous les métèques au centre de la place, donc au centre, sur la place centrale de la ville, au cœur de la ville.
D'accord.
Donc voilà, et on a réussi, et personne ne nous en a empêché. Et je pense que quand on fait des choses positives, avec en cherchant l'accord des concitoyens, de nos concitoyens, je pense qu'aucun extrémisme ne... Aucun extrémisme ne peut s'emparer, ne peut récupérer quoi que ce soit. Si
d'accord.
On est extrêmement démocrate et extrêmement... Bon, il faut être vigilant, et puis il faut être persévérant. Il faut travailler en positif, faire attention aux arguments de tous. Ça, il nous est arrivé d'avoir des gens dont vous parlez, des extrêmes conservateurs, dans nos débats. On fait très attention à leurs arguments, parce que des fois, ils ont des arguments qu'il ne faut pas balayer. Et... je pense que non, nous n'avons vraiment pas peur.
D'accord, tant mieux.
Alors peut-être une dernière question, bon, on n'a plus beaucoup de temps, mais c'est vrai que bon, j'ai lu en diagonale le texte que tu avais écrit pour le concept que tu as évoqué tout à l'heure de pluralité contre la diversité, en disant oui. La diversité c'est une notion française. Donc on parle de diversité culturelle parce que bon, en fait on n'en a plus vraiment chez nous, en France. Bon, on retrouve quand même cette notion de diversité dans des textes, que ce soit de l'UNESCO ou bien des associations qui travaillent, qui sont soutenues par l'Europe, des choses comme ça. Cette notion de diversité des langues qui parfois, bon, ça rejoint, c'est vrai, une approche un peu biologique. Bon, on parle de langues à conserver, etc. Donc ça, c'est une notion que vous... Enfin, cette approche-là vous semble... Enfin, ça vous semble pas spécialement intéressant. Enfin, c'est...
Non, c'est-à-dire que, bon, comme vous dites, la diversité, ce concept vient de la biologie. C'est la diversité,
voilà.
La diversité biologique. Appliquée aux langues et aux hommes, elle ne vaut plus rien. Si, elle veut dire l'héritage. L'héritage et les déterminations. On est né comme ça, on est né avec telle langue ou telle culture ou telle couleur de peau et tout ça. Ça, c'est l'héritage, c'est la diversité. Souvent, cette diversité humaine, elle est le résultat de l'histoire. Mais et c'est pas le résultat de... On n'est pas des plantes, on n'est pas des légumes.
Tout à fait.
Hein. C'est pour ça que le concept de racine aussi nous vient. Mais en fait, la pluralité, ce que nous mettons en avant, c'est la pluralité. La pluralité, c'est l'organisation de la diversité. Il y a cette diversité, cet héritage, ces déterminations contre lesquelles on ne peut rien, la couleur de la peau, le fait qu'on a été élevé en telle langue, ou tout ça... Ce qu'il y a, c'est que maintenant, on vit ensemble, et comment on organise... La pluralité, c'est l'organisation de la diversité. C'est-à-dire qu'il ne faut, pas simplement respecter la diversité, parce que je ne comprends pas du tout ce que ça peut vouloir dire, et ça peut justement nous amener à des choses qui sont extrêmement dangereuses. Ce qu'il faut, c'est que nous avons démocratiquement à organiser la pluralité, bien sûr en prenant compte de la diversité qui existe, maintenant il faut la transformer en pluralité consciente. Et ça, c'est un processus politique, de politique culturelle, qui doit être très déterminé, très systématique et très pensé. Alors, chez nous, les hommes politiques, souvent, ils disent « oui, nous respectons la diversité », mais moi, je leur demande « qu'est-ce que vous faites pour organiser concrètement et culturellement la pluralité ?» Et
d'accord.
Alors là, je pense que là, voilà, les discours s'éteignent d'eux-mêmes. On entend de longs silences là, quand on pose la question de la pluralité.
Écoute Claude, on te remercie énormément et infiniment pour ce petit éclaircissement, enfin moi personnellement, et nous tous ensemble pour ton apport, ta participation à cette émission. On renvoie peut-être à l'association qui organise le Forum des langues du monde à Toulouse. Carrefour culturel Arnaud Bernard,
voilà.
Ce sera en mai, je
le
crois.
26 mai 2013.
Voilà, on essaiera si on peut à Radio Panique et s'il y a moyen d'avoir des liens avec du son.
On peut en avoir parce que nous avons des liens avec des radios et on peut faire quelque chose avec vous avec grand plaisir.
Ok, on te remercie beaucoup, beaucoup. Une excellente fin de journée et
à
bientôt.
Merci à vous.
Au revoir, Claude.
Merci.